Nous sommes le vendredi 30 octobre, c'est l'épisode 14 du podcast Cap VG20 du village du Vendée Globe. Bienvenue. Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant 3 semaines je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne, des pontons qui étaient bien déserts aujourd'hui en ce premier jour de confinement, ambiance très particulière, on avait l'impression un peu d'un village fantôme. Sans les environ 10 000 visiteurs quotidiens qu'on a eu pendant 13 jours, la seule activité notable c'était ce balai de fourgons et de Manitou dès ce matin qui ont très vite commencé à démonter la plupart des installations, le village partenaire, le Vogue, le pavillon du tourisme, le pavillon culinaire, les loges. Il ne va très vite rester que les espaces dédiés aux médias, le PC course et l'espace du département qui resteront eux jusqu'aux arrivées. Ambiance vraiment très particulière qui rappelait d'ailleurs celle des lundis lendemain de départ. Je me souviens notamment de ce lundi 7 novembre 2016, lendemain du départ du dernier Vendée Globe. J'étais présent au village parce que Didac Costa avait été obligé de rentrer pour réparer. Et bien voilà, c'était exactement la même atmosphère ce matin, sauf que cette fois, il y avait bien 33 bateaux qui étaient amarrés au ponton. Alors évidemment, sur ces pontons, il y avait un peu d'activité aussi tout au long de la journée. Les teams qui continuent à préparer les bateaux dans le calme, sans effervescence. Beaucoup de bateaux d'ailleurs sont sortis en mer aujourd'hui. Charal, Groupe Apicil, Omia Water Family, Yes Wickham, Merci, Pure Best Western. Et aujourd'hui, on a aussi découvert plus en détail le protocole du départ. Ce sera là encore un moment très étrange puisque les skippers ne seront entourés au ponton que de leurs familles proches, ceux avec qui ils seront confinés la semaine prochaine, et les membres de leur équipe évidemment. Pas d'invités, pas d'officiels, pas de médias en dehors de la production photo et vidéo de l'organisation. Les journalistes seront à l'écart, il y aura une zone mixte dans laquelle les skippers passeront juste avant de descendre la passerelle vers le ponton. Tout ça sera très chronométré, les marins ne resteront pas plus de 30 minutes sur la zone du village avant de larguer les amarres. Et on continuera à suivre tout ça dans les jours qui viennent, le protocole de ce départ. On suivra aussi les conditions météo de ce départ parce qu'on commence à avoir les premiers modèles météo. Mais aujourd'hui, je voudrais aussi qu'on fasse un petit pas de côté pour évoquer un sujet très intéressant et très important. C'est tout ce qui concerne l'impact environnemental de la course au large et la protection des océans. Que font les skippers? Que fait l'organisation du Vendée Globe 2020 dans cette démarche? Alors, on en a déjà parlé dans plusieurs précédents podcasts. Il y a déjà une action très concrète qui est accomplie par plusieurs marins, c'est d'embarquer avec eux du matériel de prise de données scientifiques. Fabrice Amédéo, par exemple, aura avec lui deux capteurs, un qui mesure le CO2, la salinité et la température des océans, et un autre qui mesure la quantité de microplastique dans ces océans. Il fait partie de ceux qui sont très engagés dans cette démarche, comme Alexia Barrier, par exemple.
On va mener des expérimentations une nouvelle fois, des prélèvements d'eau pour la science, avec un instrument, un thermosalinographe embarqué, et j'embarque deux flotteurs que je vais déployer en mer. C'est pour des programmes européens, programmes mondiaux, en association, en partenariat avec l'UNESCO. Et c'est super important pour les scientifiques, car il n'y a personne qui va naviguer là où on va passer avec les autres skippers du Vendée Globe. Donc ce sont des données rares et précieuses, et ils en ont aussi besoin pour étalonner les satellites, parce que les satellites seront plus précis, ils ont plus de données in situ. Donc on contribue à ça aussi.
Et les flotteurs, les bouées dont a parlé Alexia, il y a de nombreux skippers qui en emmènent avec eux. Ils les déposeront tout le long de ce tour du monde dans des zones bien précises. Alors effectivement, c'est notable, il y a de plus en plus de projets Vendée Globe qui portent ces valeurs environnementales au premier plan. Mais où en est la course au large dans son ensemble aujourd'hui? J'ai eu l'occasion d'en discuter avec deux marins, Roland Jourdain et Arthur Levaillant. Les deux ne participent pas au Vendée Globe, mais sont des marins reconnus de deux générations différentes, c'est intéressant aussi. Et surtout, ils sont tous les deux des membres éminents de l'association La Vague, qui a été créée il y a quelques mois. C'était quand, notamment, Arthur Levaillant avait lancé un appel à Yves Auvinet pour faire de ce Vendée Globe la course la plus éco-responsable jamais organisée. On verra ce qu'il en est. Et puis Roland Jourdain, lui, ça fait déjà 15 ans qu'il a changé son paradigme.
Le Vendée Globe, il n'est pas au rendez-vous des défis de demain. Parce qu'aucun d'entre nous n'est aujourd'hui au rendez-vous des défis de demain, il faut bien se le dire. Maintenant, est-ce qu'on prend tout de suite la drisse de grand voile pour se pendre? Non, je crois que la démarche de la vague, comme beaucoup d'entre nous, c'est faire le pas à pas. La vague est là pour fédérer, inspirer, amener le plus grand nombre à se poser des questions et pas asséner des vérités parce que je le vois bien tous les jours, c'est pas comme ça qu'on change le monde. On fera pas le on-off, hein, on fera pas le blanc-noir, ça va prendre du temps de changer les choses, mais au moins on est de plus en plus nombreux et nombreuses à en avoir pris conscience.
Une démarche donc positive, pas dans le but de reprocher ou de pointer du doigt, et aussi bien Roland qu'Arthur constatent que les choses évoluent.
On a une marge de progression assez grande sur les sujets d'impact. Aujourd'hui, la classe IMOCA travaille beaucoup avec des personnes chargées de développement durable. Depuis quelques mois, là, il y a eu vraiment une envie de s'impliquer, de travailler, de faire des actions. Là, voilà, l'IMOCA investit, met de l'argent et met des moyens pour faire évoluer la classe.
Il y a des envies, et tant mieux, parce que ça fait 5 ou 6 ans, ce dont on parle là, ça aurait pas fait un fauteuil, personne ne nous aurait écouté. Donc là, ça devient un sujet. Et moi, encore une fois, je compte sur l'intelligence collective pour que chacun amène sa petite pierre. Ils disent, ah ben oui, tiens, on pourrait faire ça comme ça, et puis on a vu ça là-bas, etc.
Si demain, on met toute cette intelligence collective qu'on a mis dans la démarche de performance sportive uniquement à une démarche de réduire notre impact, on va trouver des solutions.
Roland Jourdain explique très bien qu'il faut d'abord ce terreau favorable, cette prise de conscience globale, avant de transformer ça en actions concrètes. Et pour ça, les actions concrètes, Arthur Levaillant a plein d'idées.
Demain, est-ce qu'on aura toujours besoin de goodies pour les départs de course, même si les goodies sont écolos? C'est des manières de réinventer un petit peu le modèle. Comment on va voir les bateaux en mer? Avec quels moyens de transport? Comment on se déplace au départ du Vendée Globe? Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur les problématiques de covoiturage? Comment on communique? Le numérique aussi a un impact énorme. Comment on fait pour le réduire? Tous ces sujets-là, aujourd'hui, il y a différents groupes de travail qui travaillent là-dessus. Après, il y a aussi des réflexions sur le modèle de société qu'on pousse et qu'on met en avant. Et ça, c'est des sujets qui sont plus philosophiques et que j'essaie de porter aussi pour qu'on puisse échanger et pour que demain, les marques qui s'engagent dans la voile ne soient pas juste là pour faire des panneaux publicitaires, mais soient aussi engageants sur les sujets sociétaux et d'impact.
Et il ne faudrait pas d'ailleurs que les marques avancent plus vite que l'écosystème de la course au large.
Les sponsors futurs des bateaux futurs ont ça comme cahier des charges, la limite de réchauffement de la planète, une diminution de leur empreinte carbone aussi. Donc il faut que nos projets et nos courses, tous nos événementiels aillent dans ce sens-là, parce qu'il ne faut pas que les sponsors partent ailleurs, on veut les garder.
Et puis au centre de toutes les actions concrètes possibles, il y en a une majeure qui revient très souvent dans ces discussions, c'est tout simplement changer les règles des classes, changer les règles des jauges, définir de nouveaux critères, un nouveau cahier des charges dans les classes de bateaux, et en l'occurrence l'IMOCA. En plus, il se trouve que ce sport offre directement la possibilité aux marins de décider eux-mêmes de leurs règles communes. Alors l'avancée semble être timide pour le cycle 2020-2024, même si Antoine Mermot, le président de la classe, a annoncé que l'utilisation des biomatériaux serait favorisée. À terme, ces skippers les plus engagés réclament qu'il y ait des contraintes dans la fabrication des bateaux, quitte à ce qu'ils aillent moins vite au final.
Je me battrai tous les jours pour essayer de gagner des épreuves, et parce que c'est ancré en moi, c'est le côté compétiteur et tout ça. Mais si demain on instaure des règles de classe et des règles de jauge qui font que, en fait, on pousse à instaurer des indices écologiques pour que, voilà, en disant que peut-être que des bateaux plus anciens, il y aura une forme de rating ou autre, je ne sais pas, il y a plein de choses à imaginer, mais on ne peut plus juste partir sur l'océan en disant, voilà, je vais laisser toutes les vannes ouvertes et la chasse à l'armement continuera quoi qu'il arrive. Je pense que c'est important de se mettre des contraintes, et que pour les designers, pour les architectes, c'est fabuleux aussi. Plus tu mets de contraintes, plus les designers ils sont contents, hein. Plus les archis sont contents parce qu'ils cherchent, quoi.
C'est tout à fait la démarche d'ailleurs de Stéphane Le Diraison, qui aimerait pouvoir construire un Green IMOCA pour 2024. Si le sujet vous intéresse, on en a longuement parlé avec lui dans le podcast Une histoire de message, posté en septembre. Et j'ai demandé à Bilou, à Roland Jourdain, son avis sur ce projet de bateau de course éco-responsable.
Si les règles de classe ne changent pas, effectivement, le bateau de Stéphane ne jouera pas la gagne. Mais ça fera un beau message, certainement, et toute une histoire. Et il participera sans doute à éveiller les consciences, donc c'est très bien.
Le mot de la fin, la conclusion pour boucler la boucle, je le laisse à Arthur Levaillant.
Le Vendée Globe a une responsabilité assez grande, tu vois, dans l'écosystème de la course au large, et il doit être plus modèle. Ils sont en train d'avancer énormément, ils font énormément d'efforts, et je sais qu'en 2024, on aura trouvé les clés pour que ça fonctionne.
Arthur, qui était de passage par les pontons du Vendée Globe ce vendredi et qui aimerait bien lui aussi participer au Vendée Globe en 2024. Demain samedi, ce sera le jour 15 de ce village du Vendée Globe. Rendez-vous télé avec Jacques Carès, le directeur de course, et Sébastien Marseille, le boat captain de Romain Attanasio. Vous pouvez suivre tout ça en YouTube Live à 15h, et puis le soir, évidemment, nouvel épisode de ce podcast. Si vous avez la moindre question sur tout ça, n'hésitez pas sur Twitter @capvg20. À demain.